énergies renouvelables,
des certifications,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
question d'éthique,
respect de la vie,
politique internationale, juste diversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental, en première heure, une revue de l'actualité où on parle entre autres de pesticides, d'enfants contaminés aux pesticides pour être plus précis, d'espèces menacées, de vidanges et de bien d'autres choses. Le dossier de la semaine cette semaine, c'est la principale cause de pollution chimique dans le monde, le saviez-vous? Les pesticides. On a donc le plaisir de recevoir M. Michel Gaudet de la CAP, la Coalition pour les alternatives aux pesticides, qui vient nous parler des pesticides, bien sûr, et de leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Vous allez voir, il y a de quoi broyer. Et finalement, on termine par nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout vous informer, je l'espère, en compagnie de l'équipe magique cette semaine. L'équipe magique, c'est Patrick Bonin, Nicolas Milo et Hugo Lachapelle. Sans plus tarder, si vous le permettez, on commence en parlant de pesticides. Une grosse nouvelle début octobre, l'ONU, l'OMS et le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, lançaient un cri d'alarme assez inquiétant. Ils nous parlaient de la contamination très répandue aux pesticides, tout particulièrement chez les enfants. Patrick Bonin, tu as lu tout ça pour nous, il y a tout lieu de s'inquiéter.
De s'inquiéter et à la limite d'être très triste de faire ce constat-là. On parle quand même d'une étude qui nous démontre qu'il y a environ 1 à 5 millions d'enfants dans le monde qui sont à chaque année affectés, donc intoxiqués par des pesticides, dont plusieurs qui vont mourir malheureusement. Tu parlais justement d'une étude, c'est vraiment une énorme étude qui a été faite par trois grosses organisations, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que le Programme des Nations Unies, comme tu as dit, pour l'environnement. Et c'est assez accablant de voir que justement, c'est principalement, en fait, les pays en voie de développement utilisent environ 25% des pesticides, mais 99% des intoxications vont se produire dans les pays en voie de développement. Évidemment, de toute évidence, les jeunes, les enfants sont beaucoup plus à risque, premièrement, entre autres, en raison de leur façon de jouer avec tout. On sait que des enfants sont pas nécessairement alertes aux pesticides. Également, le fait que les enfants, comparé à les adultes, vont manger beaucoup plus que leur poids, ils vont boire beaucoup plus que leur poids et leur système vont tous se développer. Donc, l'intoxication va se faire autant en respirant, en buvant, en touchant des pesticides qui sont entre autres mal réglementés, qui sont mal étiquetés, qui sont mal entreposés. Des impacts, évidemment, des impacts chroniques sur la santé, des impacts qui sont quand même assez graves. J'ai parlé de quelques milliers de morts. On ne le chiffre pas, les milliers de morts, parce que c'est relativement difficile de faire ce genre d'études-là. Vous comprendrez que c'est la grandeur de la planète, donc surtout dans les pays...
Entre autres impacts sur la santé, on dénote certains cancers de type hormonaux, donc cancer de la prostate, cancer du sein chez la femme, certains types de leucémie. On parle également d'atteinte au système endocrinien, au système nerveux central. On parle de troubles d'apprentissage. Je veux dire, c'est des impacts sur la santé qui sont absolument dramatiques. Je veux dire, c'est clair le nombre d'impacts qui sont mis de l'avant par ce type d'études-là. Donc, une très grande étude faite par la FAO, l'ONU
complètement
et l'OMS.
Et évidemment, on parle également des femmes enceintes là-dedans qui sont exposées aux pesticides. Je vais vous parler par la suite d'une autre étude, encore une fois, où est-ce qu'on parle de l'exposition aux produits chimiques chez les femmes enceintes, qui évidemment a des répercussions directement chez les enfants. Et en fait, le plus gros facteur qui ressort là-dedans, évidemment, c'est la pauvreté. Pourquoi ces gens-là sont plus affectés? Eh bien, vous comprendrez que là-bas, souvent les enfants vont être appelés à aller travailler dans par exemple, dans un champ où l'exposition aux pesticides n'est pas contrôlée, où l'arrosage se fait sans règlement. Donc, les gens ne sont pas informés. Les jeunes vont travailler dans les champs très tôt. Évidemment, ils n'auront pas de moyens de protection, donc pas de gants, pas de masques. Il n'y aura pas de réglementation sur place. Et c'est complètement triste, ma foi.
Mais oui, aberrant. On sait que c'est en fait la problématique des pesticides qui a quelque part parti le mouvement environnementaliste dans le monde entier avec ce livre de Mme Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui avait sonné l'alarme sur les impacts sur la santé du DDT, donc qui était un pesticide largement utilisé. On sait maintenant que la demi-vie de ce produit-là, donc avant que la moitié du produit soit décomposé dans l'environnement, est de 100 ans. Donc, bien qu'on ait éliminé ce produit-là, on retrouve des traces de DDT. Une autre étude est venue confirmer, donc, d'intoxication majeure. Peut-être juste en terminant sur la question des pesticides, on aura l'occasion d'en reparler en deuxième heure avec Michel Gaudet de la CAP. Il y a une étude en Europe qui révélait que dans les premières selles des enfants naissants, donc qui venaient tout juste de naître, tous les enfants répertoriés avaient au moins 3 pesticides dans la toute première selle qu'ils faisaient de leur vie. C'est incroyable. Une autre étude ici, plus proche de nous au Canada, à Toronto, vient encore une fois mettre de l'avant ce problème-là d'intoxication aux divers produits chimiques, mais cette fois-ci, pas seulement les pesticides.
Je vais juste rajouter un petit quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner qui est important. Je pense que je parlais de pauvreté. Et évidemment, on mentionne dans l'étude que la malnutrition puis la déshydratation, donc les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, entre autres, vont faire que ces enfants-là vont être plus sensibles aux pesticides. Donc, l'impact va être plus grand. Donc, encore une fois, que...
Précision importante. Précision importante aussi, c'est donc par l'ingestion, mais c'est aussi par l'inhalation des pesticides et par contact cutané. Donc, on voit que les sources qui peuvent nous affecter, donc les pesticides, c'est la cause, mais ils peuvent nous affecter de plusieurs façons. Donc, cette étude torontoise, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Étude torontoise qui a été faite par l'Université de Toronto. Ce qu'elle nous dit, encore une fois, on parle, c'est une étude qui a été faite auprès de 64 femmes qui ont été enceintes. Donc, ça a été fait auprès de 64 enfants de 3 à 9 ans qui, leur mère a été soit mise en contact ou non mise en contact avec des produits chimiques lors de la grossesse. Donc, ce qu'elle dit, cette étude-là, grosso modo, c'est que du côté des enfants qui viennent de mères qui ont travaillé, par exemple, des techniciennes de lab, des peintres, des travailleurs dans un laboratoire de développement de photos, même une enseignante de sciences, un embaumeur ou une coiffeuse, étaient parmi ces... Non, définitivement, c'était
des exemples.
Ben, c'est des exemples. En fait, il y a 17 occupations différentes et c'est pour faire réaliser que l'environnement d'un travail qui semble à premier abord, qui semble anodin, peut avoir des répercussions sur les enfants. Et les répercussions qu'on a, ce sont des répercussions du type... problème au niveau de l'engager, donc la difficulté à s'exprimer comparativement à l'autre groupe où les enfants n'ont pas été exposés, problème d'attention, problème de mémoire, c'est des résultats relativement... relativement inquiétant parce que on faisait l'étude sur 78 solvants organiques, par exemple comme de l'éthanol ou par exemple comme de la résine d'acrylique, donc des produits qui à première vue sont pas nécessairement, on n'est pas nécessairement alerte face à ça
et pourtant
et c'est, les mères étaient exposées par exemple dans une fourchette de 1 heure à 40 heures par semaine, donc ça peut être vraiment très peu et c'est 6 à 8 semaines dans... Non, ça c'est mal dit de ma part. 6 à 7 semaines dans lesquelles ils vont dans leur grossesse. C'est pas clair, hein, mais c'est parce que...
Donc,
c'est...
ils n'ont pas besoin d'être exposés longtemps à ces produits-là pour que les conséquences se fassent sentir. Il faut croire aussi qu'il y a toute la question de la synergie entre les contaminants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un contaminant qui est problématique, mais ajouté à d'autres dans un super cocktail toxique à l'intérieur de nos corps, ça peut faire des problèmes encore plus graves. Patrick Bonnet, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Bien entendu, vous pourrez retrouver ces études-là sur notre site internet au www.radiodelirium.net. On va terminer avec une bonne nouvelle, si vous permettez, parce que là, c'est un peu dramatique. Quoique moi, je vois que c'est quand même... J'arrive à voir la nouvelle de l'ONU et du FAO comme une bonne nouvelle, parce qu'enfin, la communauté internationale se mobilise. La communauté internationale s'est mobilisée pour honorer une femme. On a enfin fait le lien entre ressources naturelles et paix. Le prix Nobel de la paix a été remis à une environnementaliste, Nicolas Milot.
Ben oui, mettons un peu de sourire dans cette émission-là. Une bonne nouvelle. Wangari Maathai, qui vient du Kenya, a reçu la semaine dernière le prix Nobel de la paix. Madame Maathai, qui est une militante écologiste qui a principalement œuvré dans tout le contexte de la déforestation de son pays, mais elle s'est vu remettre la semaine dernière le prix Nobel de la paix, donc elle succède à Shirin Ebadi qui avait gagné le prix pour ses travaux dans le contexte du droit, principalement auprès des femmes musulmanes en Iran. Eh bien, cette année, c'est l'environnement qui se voit décerner le prix Nobel de la paix d'une certaine façon, où est-ce qu'on voit que la pauvreté, la paix dans le monde ne peuvent pas être simplement isolées, mais font partie d'un contexte beaucoup plus grand et que l'environnement en fait partie. Merci.
C'était notre bonne nouvelle. Retour à Delirium environnemental. Donc, vous inquiétez pas, on va essayer de vous trouver des bonnes nouvelles. On y va avec une nouvelle qui est peut-être pas super bonne. La semaine passée, le 6 octobre, dans Le Devoir, il y avait un cahier spécial. C'est le fun de voir justement l'émergence de la conscience environnementale à travers les médias. C'est vraiment plaisant de voir ça. Une des grandes problématiques, c'est donc la production de déchets. On lisait entre autres que 22 tonnes à la minute au Québec, est-ce possible, oui ou non, Nicolas?
On est très
Milo?
Fort. On est très, très fort. Vous savez, en plus, la semaine prochaine, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, c'est quelque chose tout à fait d'actualité. Et le cahier, la semaine dernière, du devoir, donc, qui a paru mercredi le 6 octobre, si vous pouvez aller consulter la version papier, eh bien, avait une série d'articles. Et je vous en fais un petit résumé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de déchets à Délirium environnemental. Et il y a des chiffres qui sortent là-dedans qui sont, mon Dieu, c'est à se demander si on vit pas sur un autre monde, une autre bulle. Est-ce qu'on est si différent du reste du monde au Québec pour se permettre de faire des gestes comme ça? Comme tu l'as dit, on fait 22 tonnes de déchets toutes les minutes. Ça, c'est 11 millions de tonnes par année que les Québécois génèrent en déchets. C'est une tonne et demie par personne par année. Imagine une tonne et demie, là, c'est pas rien. La production de déchets a augmenté de 1 tonne à 1 tonne et demie par personne entre 88 et 2002. Donc, c'est plus du tiers d'augmentation. 85% des choses qu'on jette pourraient être réutilisées.
Oh, arrête, j'ai mal au cœur.
C'est beaucoup. L'industrie québécoise du papier est en manque de papier recyclé. Elle doit en importer des États-Unis et du reste du Canada. Il faut 95% moins d'énergie pour faire une canette à partir de l'aluminium recyclé plutôt qu'à partir de l'aluminium neuf. Bref, c'est plein de chiffres comme ça qui nous font dire, voyons donc, pourquoi on n'est pas plus actif dans le monde du recyclage, surtout qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux de recycler pour 65% de nos déchets d'ici 2008.
On sait aussi que les infrastructures sont pas encore complètement là. On recycle, on peut recycler. Donc, une des principales causes, c'est l'emballage, devrait-on dire le sur-emballage, qui est 40% de notre sac de poubelle. Donc, ça, on peut recycler en grande partie. Est-ce que les gens le font? C'est une autre question, mais on a la possibilité de le faire pour la plupart des gens au Québec à partir de leur résidence. Par contre, des matières putrescibles, c'est impossible. On peut pas encore recycler à grande échelle.
Et pas encore. Et ce qui est un peu, dans le fond, tu viens de toucher un point qui est hyper important, celle des structures. On nous dit dans un des articles que le secteur des industries commerce est celui qui a le mieux fait dans les 20 dernières années parce que justement eux ont pu établir des structures parce que ils possèdent le capital financier pour le faire, alors que le taux de recyclage des particuliers, bref le bac vert, eh bien est à peine de 26%, et on doit passer à 65% d'ici 6 ans. D'ici 2008. Et là, on a un exemple, entre autres, celui des éco-centres à Montréal. Ceux qui connaissent pas c'est quoi un éco-centre, c'est dans le fond un centre où vous pouvez arriver là avec votre auto. Il y a plein de bacs différents. Vous pouvez disposer de toutes vos matières. Et là, que ce soit des déchets monstres, que ce soit des trucs qui sont plus compliqués à recycler que ce qu'on peut mettre dans le bac vert. Comme des vieux pots de peinture, entre autres. Et les éco-centres à Montréal, entre autres, ne fournissent plus. Ils sont en voie. Le responsable des éco-centres à la ville de Montréal projette d'en construire 8 autres au cours des 5 prochaines années parce que la demande est vraiment trop grande.
Et je tiens absolument à vous rappeler à la maison, tous, vous tous qui croyez que le recyclage, c'est la panacée, c'est la solution par excellence, eh bien, il y a un concept qui s'appelle la réduction. Ça veut dire évitez donc d'acheter des affaires que vous n'avez pas besoin, achetez donc des affaires moins emballées. Donc, le recyclage, c'est bien de le faire, mais c'est encore mieux d'éviter d'avoir recyclé des choses. Donc, pensez à ce que quand vous achetez quelque chose, si, par exemple, vous pouvez réutiliser un autre produit ou quelque chose d'autre à la place.
Une petite économie facile, c'est peut-être le sac de plastique. Ça essaie à chaque fois que vous allez au dépanneur ou à l'épicerie de reprendre des nouveaux sacs de plastique. On sait que c'est un problème environnemental majeur. Donc, ces petits sacs de plastique sont maintenant partout, dans les océans, dans les airs, partout. Et il y a de plus en plus de pays qu'il est banniste. Peut-être ici un jour, qui sait. Le discours du trône qui a eu lieu, qui a été prononcé la semaine passée, qui a fait bondir plus d'un, est-ce qu'on a vraiment parlé d'environnement? Est-ce que l'environnement était au centre des préoccupations? Patrick Bonin, t'as écouté tout ça attentivement pour nous, et qu'en est-il?
Ben, au centre, ce serait évidemment beaucoup dire.
Le
discours
rêve.
Du trône, ouais, définitivement. Je rappelle que le discours du trône, ça se passe au niveau fédéral, donc c'est Adrienne Clarkson qui est la gouverneure générale. Et ce que c'est un petit peu, dans le fond, c'est lors d'une nouvelle session, on parle des grandes orientations et des objectifs généraux du gouvernement fédéral, encore une fois, je vous le rappelle. Donc, évidemment, on parlait beaucoup d'économie là-dedans, on parlait beaucoup de développement durable, on parlait beaucoup de santé, et il y avait une section pour l'environnement, section quand même qui mérite qu'on la regarde un petit peu, parce que quand même de belles initiatives, loin d'être parfait, évidemment, vous savez que nous avons tendance à trouver les petits problèmes où il n'y en a pas vraiment à première vue, mais je vous fais peut-être en rafale rapidement quelques idées qui ont émané de ce discours-là. Vous pourrez aller aller voir sur notre site web également, radiodelirium.net. Vous allez voir, il va y avoir un lien pour la section environnement du discours. Et rapidement, on parle justement d'investir dans les technologies environnementales de pointe. On parle d'une politique d'achat d'ici 2006 au Canada, donc une politique où on s'approvisionnerait en produits écologiques. Donc, intéressant de voir ça définitivement. On parle de recherche et développement pour tout ce qui est la question d'efficacité énergétique. Donc, on en parle beaucoup, l'efficacité énergétique. On est des gros consommateurs, donc c'est vraiment intéressant de voir ça. On parle aussi de faire la promotion de l'énergie propre, l'énergie renouvelable. On renouvelle le programme d'éolien. Vous savez qu'il y a des programmes de subvention au niveau fédéral pour l'éolien. On donne quelque chose comme une cent le kilowattheure pour des projets d'éolien. Donc, on a renouvelé ça. Enfin, on a quadruplé ce programme-là. Donc, on parle d'investissement de l'ordre de 6 milliards de dollars potentiels à venir, évidemment. Et quelque chose comme une création d'emplois jusqu'à 40 000 emplois qui seraient reliés à ça. Donc, c'est très intéressant. Malheureusement, on parle de protocole de Kyoto. Mais Kyoto, on ne fait que réitérer les intentions du gouvernement de respecter le protocole de Kyoto. Où est-ce que c'est un petit peu dangereux? C'est qu'on nous parle de Kyoto avec des objectifs à long terme. Donc, il y a plusieurs environnementalistes, entre autres, qui se sont affolés en disant un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est quoi cette idée-là d'objectif à long terme? Est-ce qu'on veut nous faire passer en douce qu'à court terme, on va peut-être changer nos objectifs et ne pas respecter nos objectifs parce qu'on a une vision pour dans 40 ans, ça va fonctionner? Donc, très, très... Monsieur Martin qui n'a pas sorti de plan, qui n'a pas parlé de législation pour Kyoto. On sait que les industriels, entre autres, qui vont devoir réduire leurs émissions, c'est rare qu'ils le font de façon volontaire. Donc, c'est assez inquiétant. Aucune partie pour l'éducation. Malheureusement, c'est supposé être les grandes lignes du gouvernement. Le premier discours de M. Dion parlait d'éducation. On ne retrouve rien là-dedans. Donc, beaucoup de trous à combler et on va les alimenter s'il faut. Hein?
Mais nous les aurons à l'œil, bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. De retour à Delirium environnemental, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller lire les nouvelles qu'on met disponibles pour vous sur le site internet au www.radiodelirium.net. On continue donc la revue de presse, la revue de l'actualité. On parle de transport, on sait que notre grand spécialiste c'est Hugo Lachapelle, tout le monde sait ça. Donc Hugo, tu nous parles d'une belle initiative des étudiants de l'Université de Montréal qui veulent se doter d'infrastructures de vélos qui soient, ma foi, cohérentes et conséquentes de leur conscience.
Eh bien oui, connaissez-vous le réseau uni des usagers à vélo,
c'est
le RUUV. Vous pouvez aller regarder ça en faisant un petit Google sur RUUV parce que leur site est un peu compliqué à mentionner. Mais en fait, c'est trois cofondateurs, Éric Bélanger, Gabriel Tessédou et Pierre-Luc Soucy, qui sont des usagers de vélo puis qui ont décidé finalement que, en fait, à l'UDM, c'était vraiment compliqué d'être un cycliste. Pourquoi?
Ben, entre autres, la montagne.
Entre autres, le manque de support à vélo et de douche, l'absence de pistes cyclables sur le campus et à l'extérieur du campus dans le quartier environnant. C'est une réalité quotidienne qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'utiliser leur vélo, qui sont pas intéressés ou qui sont tout simplement... qui pensent même pas à ça parce qu'ils voient pas la possibilité. Alors, en gros, ce groupe-là a décidé qu'on avait besoin d'évaluer les besoins des cyclistes pour améliorer toutes les ressources permettant le cyclisme et puis la sécurité des cyclistes. Alors, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire un tour du campus, recenser les supports à vélo, et on s'est aperçu que, selon Vélo Québec, les cégeps et les universités devraient pouvoir avoir logé les bicyclettes de 6% de leur des étudiants et puis de 3% des employés. Donc, pour une université comme l'UDM, ça serait 60 000 étudiants, on parle de 3 000 places à vélo, alors qu'on en a trouvé seulement 750. Donc, il y a un gros trou à remplir et il n'était pas nécessairement bien placé pour bien rejoindre les accès aux différents pavillons. Par contre, en plus, on a fait le tour de la Polytechnique. On s'est aperçu qu'il y avait seulement 4 douches qui étaient disponibles. C'est pas mal, considérant qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour le moment qui utilisent des vélos. Mais c'est quelque chose où on dit que ça aiderait beaucoup les cyclistes, ou dans le fond, ça permettrait à beaucoup de cyclistes qui décident de ne pas venir à cause qu'ils n'ont pas de vélo, à cause qu'il n'y a pas de douche. Ça leur permettrait de, d'utiliser ça. Et bon, en plus de ça, on a décidé de faire toute une enquête qui se base un peu sur les mêmes thématiques que l'enquête origine-destination, où là, on a rejoint 250 personnes pour essayer de mieux évaluer les besoins des cyclistes. Vous pouvez aller remplir cette enquête-là sur le site web et ben, on espère que le RUUV ait beaucoup de succès dans ses projets. Et puis, ils entendent réunir les membres bientôt pour partager les points de vue et puis rencontrer la direction du HEC, Université de Montréal, pour faire passer leurs points et puis arriver à une entente.
Bien, merci beaucoup, Hugo Lachapelle, de nous avoir parlé de ça. Bonne chance à tous les cyclistes qui se rendent à l'IDM.
Oui,
quand même,
chance.
À été comme hiver en haut de la montagne, c'est pas évident. Mais c'est.
Surtout quand il n'y a pas de piste cyclable, hein?
Surtout quand il n'y a pas de piste cyclable pour
s'y rendre.
Un peu
plus dangereux.
J'espère qu'ils y travailleront. Il manque de piste cyclable à Montréal, c'est bien évident. Le Sirois s'en va en Abitibi. On ne parle pas du vent, là, le Sirois, hein, j'imagine.
Non, malheureusement, ça serait trop le fun. Bon, c'est un projet qui est dans l'air, mais il est un peu trop dans l'air à mon goût. Vous savez que le projet Sirois est pratiquement enterré à Beauharnois compte tenu de la grogne qui l'a suscité. Eh bien, Hydro-Québec a, la semaine dernière, confié à ses ingénieurs le mandat de plancher sur un scénario central à 800 MW en sol abitibien. On sait que l'Abitibi serait nettement plus réceptive à un projet de la sorte, côté emploi, côté aussi tout l'apport qu'une source d'énergie comme cela pourrait donner, principalement pour d'autres industries du coin, notamment la culture maraîchère qui se cherche une source d'industrie pour faire son chauffage à moindre coût. Et le rapprochement de l'Abitibi à l'Ontario, ben, c'est un argument de poids aussi pour Hydro-Québec. Les interconnexions sont pratiquement déjà là. Et le commerce vers l'Ontario, eh bien, serait que plus facilité. Bref, que dire, Hydro-Québec a, avec l'Abitibi, plein de beaux arguments à nous garrocher encore
plein
une fois.
Belles affinités. Est-ce que ça va faire qu'il va avoir 600 000 voitures de plus sur les routes du Québec, ou l'équivalent de 600 000 voitures de plus au Québec?
Eh bien, ça, le député libéral du Québec, Daniel Bernard, qui est le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, n'a vraiment pas l'air de s'en faire avec ça. Pour lui, l'Abitibi est tout à fait prête à recevoir un projet comme ça, et surtout si la commission d'enquête sur l'énergie, enquête ou d'études, bref, sur l'énergie cet automne, donne le moindre feu vert à un projet de la sorte, et vous pouvez être sûr qu'il va défendre les Abitibiens pour qu'ils soient les premiers à pouvoir mettre la main sur un projet comme celui-là. C'est du monde dangereux.
Juste spécifier que cet automne, en fait, ce sera une commission parlementaire, donc c'est des députés qui vont siéger à cette fameuse commission sur l'énergie au Québec, je crois qu'ils vont l'appeler sur la sécurité énergétique. On sait que le mot sécurité ouvre plusieurs portes par les temps qui courent. Et peut-être vous faire un petit mot justement sur, dans le fond, là tu parlais d'une centrale une centrale thermique au gaz naturel, l'émission de gaz à effet de serre. On se souvient, c'est le principal, dans le fond, pourquoi il y a une levée de bouclier, c'est parce qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre. On parle d'augmentation d'environ 2%. Le Sirois, c'était environ 2% au Québec, l'augmentation, quand on se souvient qu'on veut diminuer avec les objectifs de Kyoto. Donc diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et on s'en est fait passer une autre petite vite cette semaine.
Ben voyons donc.
Ben oui, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Hydro-Québec a décidé de faire un appel d'offres. Donc ils ont demandé à quelqu'un de lui, ils ont demandé aux différentes entreprises de leur soumettre une possibilité de 350 MW d'énergie thermique en cogénération. Donc la cogénération, je vous rappelle que c'est quand même une centrale thermique au gaz naturel où on va réutiliser justement le gaz, plutôt les vapeurs, soit pour chauffer ou soit pour produire de l'électricité. Donc c'est la même chose. C'est une centrale thermique au gaz naturel. Et Hydro-Québec, après Bécancour qui l'a passé cet été, je vous rappelle qu'on a une centrale thermique de 500 MW qui est en construction à Bécancour, qui va polluer encore une fois, surtout en termes de gaz à effet de serre CO2. Et bien là, on a un 350 MW supplémentaire qui arrive. Ça n'a aucun bon sens, excusez-moi, là, mais on a une commission parlementaire qui s'en vient à l'automne. On prend la décision avant même la commission parlementaire d'aller de l'avant là-dedans. Ça n'a juste pas d'allure. Je pense
pour ceux qui voudraient pas
se réaliser.
Réalisez-vous. Pour ceux qui voudraient pouvoir se représenter l'effet de serre, ben, je vous conseille ce grand film hollywoodien qui est sorti plus tôt au printemps, The Day After Tomorrow, le jour d'après. J'ai vu ça en fin de semaine et laissez-moi vous dire, je me suis laissé charmer.
Faire bouler les fadas en parlant du vin et des filles. Là, ce monde est en tourbillon.
Qu'est-ce pas l'outil des pantalons?
Quand toi, on a un petit chalio.
En un clin d'œil sur ta télé, tu pourras compter sans bordir.
Ouais. C'est Marie-La masque le métier se tourne sous la forie.
À découvert ou déguisé,
leurs dents sont toujours aiguisées.
Pour te tromper, ils se maquillent.
Couleur aussi folle, incapace, un coup mesquino d'une lesbille.
Y'en a partout, je te mens pas, c'est pire que la taxifolie.
Des dînes l'église et dînes l'estat.
La presse et l'université.
Et bien l'air d'une ta famille.
Ces salons ne font que tricher pour mieux récupérer leur vie.
Et politique, elle est aidée, et mais ils semblent une comédie.
Ils masquent la réalité,
et imposent leur vérité.
Toujours fuyant comme l'anguille.
Et pour faire sauver les tugas, expliquant en tout per magie.
Mais leur savoir est plus étroit encore que le chat d'une aiguille.
Soumis à une petite teisa.
J'ai pas l'arrière-maille des trouvants.
Les entrées grandes et courtésies.
Ils nous feraient bien rigoler s'ils ne faisaient que des broutilles.
Moi, ici, pareil, ils sont pour l'idée dans des samplings à la caville.
Ils nous empêchent de penser.
Sont prêts à jouer les bouchers.
De peur que leur secte vacille.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passé la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Y en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets, de Mercedes et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas. Pleine de seins, pleine de fesses et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton et Monica. Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe. De la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches s'envergognent, augmentent leur richesse. Toi, pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et j'ai toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
Hey,